Installez-vous. 1, 2, 1, 2. On est bien là. 1, 2, moi ça me va très bien.
Un
les
deux,
retours sont un peu deux. Cachés. Voilà, voilà.
Amis de la Méditerranée.
Ça se remplit petit à petit, tout doucement. J'ai vraiment une voix de merde. Hein.
Ton texte, ça pourrait être un truc utile.
Oui, je vais le mettre. Je vais m'occuper de mes lunettes. Est-ce que tu veux, on va rappeler de quoi il s'agit, ce qu'on va lire. Alors. Pardon ? C'est ça qu'on lit ce matin.
Oui, c'est ça.
Alors, si tu veux bien, il s'agit de lectures autour de textes qui ont été récoltés par une association qui s'appelle l'Association Histoire Vraie de Méditerranée et qui a pour but de créer une bibliothèque comme ça, multimédia, de paroles, de textes, d'images auprès de gens, d'habitants de la Méditerranée. C'est un objet fort intéressant et puis qui permet de créer un pont comme ça entre tous les individus de la Méditerranée qui est à la fois singulière et très complexe. La première histoire que nous allons lire s'appelle Histoire vraie du dedans, qui a été récoltée par Claire Castan et qui donne à écouter des personnes, des hommes, des femmes, essentiellement des femmes d'ailleurs, dans cette histoire, qui sont en milieu carcéral. Voilà. Donc c'est un... On s'y met.
Vas-y.
Alors, pardon.
Je vais peut-être te faire le titre, comme
oui,
ça.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Le verre que nous n'avons pas bu.
Par Sylvain Prudhomme. Il est 8 heures du matin, c'est le mois de février. Ça commence bien. Bruno et moi sommes debout face à la mer, sur la corniche. Je suis arrivé d'Arles par le train de 7h27, une demi-heure plus tôt que d'habitude. Bruno m'a accueilli au bas des marches de la gare Saint-Charles, à redémarrer Fissa sans perdre une seconde. Au lieu d'emprunter le Prado, nous avons pris par la mer, le large est apparu, avec le château d'If et le Frioul au loin, embrumé, encore pâle dans la grisaille de l'aube. Arrivé à la plage du prophète, Bruno s'est garé, les portières ont claqué, nous avons bondi dehors, maintenant nous goûtons l'air froid, l'odeur des embruns et des algues sur la grève, le spectacle de la mer immense. Nous avons rendez-vous au quartier des femmes des Baumettes, dans une heure. Nous sommes heureux de notre idée. Heureux comme des gamins.
On va le faire,
s'écrie Bruno.
On va le faire pour de vrai.
Nous descendons en courant sur la plage. Bruno se pose le cul dans le sable à 10 mètres de l'eau. Je m'assois près de lui. La plage est déserte, le sable humide. Même les mouettes se les gèlent et ravalent la tête entre les ailes. Nom de Dieu, ça meule, je dis. Et triomphant, je sors de ma besace comme une gourde de potion magique. La bouteille de Chablis perlée de condensation. Si elle a un peu réchauffé dans le train, 3 minutes de ce froid polaire l'ont déjà ramenée à température. Bruno a rapporté 2 verres.
Le tire-bouchon, j'ai oublié le tire-bouchon.
Mais Bruno a pensé à en prendre un. Cette fois, la bouteille est foutue, acculée, cernée. Plus moyen qu'elle nous échappe. Dans le petit jour, le liquide doré tangue au fond des verres. Ce ne sont pas des verres à pied, simplement des verres à fond plat, à moutarde presque.
À nos femmes.
À nos femmes, dit Bruno en faisant teinter son verre contre le mien et je renchéris aussi groggy d'amour que lui. Nous levons le coude, le liquide rebondit dans nos bouches, explose de saveur contre nos palais, file par nos œsophages câliner le fond de nos ventres. Nous sommes à jeun. L'ivresse de la décharge d'alcool est douce, bonne. Je n'ai jamais bu de Chablis si tôt. Je n'ai jamais bu de Chablis si bon.
C'est toi qui lui diras tout à l'heure.
Me dit doucement Bruno. Mais je proteste que non.
Tu lui diras toi. C'est à toi qu'elle l'a demandé.
Elle, c'est Laure, une des 8 détenues que nous retrouvons une à 2 fois par semaine pour l'atelier Histoire vraie au Baumettes.
Vous savez ce qui me ferait vraiment plaisir ?
Nous a dit Laure après quelques séances.
Que vous buviez un bon verre de Chablis à ma santé devant la mer. Que vous savouriez un Chablis en pensant très fort à moi.
Dont acte. Maintenant, le vin coule dans nos gorges et nous voudrions rester toujours devant la mer, sur cette plage déserte, à penser à Laure et Karine et Nas et Chanaise et Mélanie et Sylvie et Yvonne et Malika et Lital. Nous voudrions que ce moment dur s'étire, boire à leur santé, toujours. Il y a 2 semaines que l'atelier a commencé et depuis le début, nous sommes bouleversés. Mais émus par quoi ? Chamboulés par quelle différence avec les hommes que nous avons vus à Tarascon l'année précédente ? Une sincérité. Une façon de se livrer sans compter, de donner à chaque séance. Une façon de s'écouter entre elles aussi. Un art d'accueillir la souffrance des codétenus. De savoir par 2 ou 3 mots lui faire accueil. Un humour, un panache, une élégance jusque dans la colère, jusque dans les souffrances endurées. Une tenue. Sur la plage, les mouettes se sont approchées. Elles se demandent si nous allons leur lâcher un petit bout de pain. Mais nous n'avons pas de pain, seulement du vin. Et depuis quand les mouettes boivent-elles du Chablis ?
Il faut y aller,
dit Bruno. Ou c'est moi qui le dis. Ce n'est pas le froid. Le mercure, nous l'affronterions même descendu en dessous de 0. C'est l'heure. L'atelier commence dans 30 minutes. Il faut y aller. Se garer le long de l'immense muraille des Baumettes, ornée d'allégories des 7 vices, la luxure, la paresse, l'avidité, la gourmandise, l'envie et les autres. Passer le portique de l'entrée des personnels, franchir les cours, les sas, les grilles, aller retrouver Laure et les autres là, derrière les barreaux, en attendant de trinquer avec elle à la liberté devant la mer. Nous entrons dans la petite salle de classe où nous a précédé pendant des semaines un intervenant magicien. Et de son passage, il reste un cartel près de la porte écrit « Magie ». Une à une, Laure, Karine, Chanaise, Sylvie, Yvonne, Nas, Mélanie, Lital, Malika nous rejoignent, nous serrent chaleureusement la main, accueillantes, enjouées, fières. Quels récits vont-elles nous faire ce matin ? Quelles nouvelles leçons de courage allons-nous prendre ? Nous nous asseyons, échangeons les dernières nouvelles.
Alors ? Vous l'avez bu, mon verre de Chablis ?
Nous demande Laure en riant. Alors Bruno me regarde, aussi embarrassé que moi. Nous sommes obligés de bredouiller que non, pas encore. Mon train arrive chaque matin à 7h59. Le temps de venir ici, ça fait court.
On n'a pas encore eu le temps.
Je me sens idiot, Bruno aussi. Je devrais oser dire la vérité alors que Bruno et moi, nous en avons parlé tout le trajet le retour, la dernière fois de ce verre devant la mer, que nous l'avons savouré 100 fois en rêve, que chaque verre de vin que je bois depuis, il est à sa santé, que pendant très longtemps, c'est sûr, je ne pourrais plus voir une bouteille de Chablis sans penser à elle. Pas encore eu le temps. Je me mords les lèvres de ces mots stupides, couillons que nous sommes. Manquer de temps. Peut-être que c'est cela aussi, être dehors. Avoir le luxe de courir après le temps.
Un cireur de chaussures heureux. C'était la fin de la journée à Marrakech. Je me baladais sur la place Jemaa El Fna. La nuit tombait. De nombreuses gargotes faisaient crépiter leurs feux de bois. L'odeur des merguez grillées rivalisait avec celle du couscous. Les marchands à la sauvette étaient partout. Je marchais, les yeux écarquillés, envoûtés, les sens saturés de parfums, d'images, de sons. Et tout d'un coup, j'ai été interpellée par un petit homme tout en sourire, le visage buriné par le soleil du sud. Il était assis sur une caisse, posé à même la terre battue près d'une gargote fumante. Je lui ai souri en retour et j'ai regardé la chaise qu'il me désignait pour que je m'y asseye. J'ai alors compris son métier, cireur de chaussures. Mon sourire s'est figé. Je ne voulais pas offrir à ses compatriotes la vue d'une occidentale se faisant cirer les chaussures. Il s'est levé, il s'est approché, toujours souriant. Je n'ai pas eu le temps d'exprimer un refus qu'il s'affairait déjà sur mes chaussures, saisissant un demi-citron. Il en frottait énergiquement le cuir défraîchi. Dans l'état où j'étais, plus rien ne m'étonnait. Je crois que s'il avait écrasé une banane sur mes souliers, je n'en aurais pas été surprise. Nous avons échangé quelques phrases, mais il restait très concentré sur ce qu'il faisait, avec toujours ce petit sourire. Il a appliqué sur le cuir une sorte de crème noirâtre, amassé la chaussure avec un vieux chiffon pour que la crème pénètre. Il a lustré le cuir avec une petite brosse agile, et à mesure que mes chaussures reprenaient vie, son sourire s'élargissait, découvrant des dents éclatantes. Lorsque mes chaussures sont devenues aussi lisses et brillantes qu'au premier jour, ses yeux ont pétillé de fierté. J'avais complètement oublié la gêne initiale. Sa joie était contagieuse et je me suis soudain sentie très très proche de cet homme que je ne connaissais pas 15 minutes plus tôt. Il m'a demandé un prix honnête que j'ai réglé de bonne grâce et dans l'enthousiasme du moment, il a insisté pour m'offrir un thé à la menthe. J'ai pris soudain conscience d'une évidence. Une douloureuse évidence. Cet homme était plus heureux que moi, qui disposait d'un métier valorisant. Cet homme respirait le bonheur, et le bonheur rayonnait autour de lui. C'était il y a 4 ans, comme je voudrais revivre cette scène. C'était le bonheur. J'étais avec mon mari, j'étais libre. Je n'avais pas encore entendu le clic-clac des menottes. Sylvie, des Baumettes.
Naviguer pour son avenir. Moi, je suis bon au foot. Mais au pays, il y a trop de regrets, trop d'injustice et d'abus de pouvoir. Dans les clubs, il n'y a que les fils d'eux qui jouent. Si ton père ne t'amène pas en voiture ou s'il ne travaille pas dans une entreprise d'État, c'est pas la peine d'y penser. Quand j'étais plus jeune, on allait faire des tests, des essais dans les clubs. Et avant même de rentrer sur le terrain, la première chose qu'on te demandait, c'était...
C'est quoi le métier de ton père ?
Si tu réponds que ton père ne travaille pas, on te montrait la porte. Tu pouvais rentrer chez toi. Et si tu répondais que ton père travaille dans une entreprise d'État, là, on pouvait t'aider. Moi, sans me vanter, je suis bon. Je suis bon. Je sais plus où j'en suis. Ah oui, moi sans moitié je suis bon, j'en ai dans les jambes, beaucoup de gens pourront te le dire. Mais les gens me méprisaient, même les entraîneurs. Ils me voyaient tout maigre alors, mais moi j'aime le football. Et le football ça se joue avec le cœur. Pas pour faire plaisir à la foule ou je ne sais pas quoi, ça se joue avec le cœur et pas autre chose. Moi je joue au milieu de terrain moi. Mais je suis polyvalent, hein, récupérateur, arrière-droit, arrière-gauche, attaquant, je peux tout faire. Mais ça n'a pas marché pour moi. J'ai couru après le succès au pays, mais avec toute cette eau gras. Rajoute à ça que quand j'ai commencé à jouer pour gagner un peu d'argent, mon frère est tombé malade. Alors j'ai décidé de partir. Mais même l'exil, je n'avais pas du tout ça en tête. Aux copains, je leur disais...
La barque, je ne poserai jamais un pied dedans.
La vérité, c'est que je ne sais même pas comment je me suis retrouvé à monter sur une barque pour traverser la Méditerranée. C'est la misère qui m'a poussé à faire ça. Alors que notre pays est si riche, une richesse comme il n'y en a pas dans toute l'Europe, dans n'importe quel pays. Tu crois que si j'avais réussi au foot ou que si j'avais un bon travail, je serais venu ici ? Avec cette souffrance, dormir un jour dans une maison, un jour dans une autre, un jour dans la rue. C'est comme quand je vais sortir de prison. Est-ce que je vais trouver un endroit où loger? Je ne sais pas. Mais comme on dit, c'est le destin. J'accepterai ce qui viendra. Dire que normalement, le 1er janvier, j'aurais dû me marier. Et c'est comme ça. Tant qu'on a à manger, qu'on est toujours debout, qu'on parle, qu'on voit. Par exemple, j'ai un frère qui est devenu aveugle à 23 ans. Et quand j'y pense, je me dis que dans mon malheur, j'ai de la chance. Ce papillon, là, c'est mon beau-frère qui me l'a tatoué, là, sur mon épaule. Ce papillon, il est comme moi. Il peut vivre n'importe où, dans n'importe quel pays, en Angleterre, en Italie, où que j'aille, je peux vivre. Je ne vais pas te mentir, j'habitais à Bouama, dans le centre de Annaba, à côté de la basilique de la Labouna. Et là-bas, c'était vraiment la misère, je ne peux pas dire mieux. C'est le destin qui m'a fait monter sur cette barque. Et je dis barque, mais en vrai, c'est quoi? C'est une coque de noix, une peau de cacahuète. Ça fait déjà un mois et deux jours que je suis là. Et je ne sais pas quand je vais passer en jugement. J'y comprends plus rien. Ma chance s'est envolée. Je dors plus la nuit. Je passe mon temps à gamberger. Ça monte, ça descend. Que des questions sans réponse. Je pense à mes parents. Un mois et deux jours que je ne leur ai pas parlé. Je pense à ceux qui me sont chers. Mon frère aveugle, par exemple. Dehors, je travaillais. J'étais tranquille. J'ai pas compris. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est le diable qui m'a possédé. Dehors, tu verrais, je suis un gars super tranquille. Tout le monde m'apprécie. Je mets l'ambiance, je rigole, je crie. J'ai laissé un grand vide. Ils n'entendent plus ma voix. Quand ils me voyaient, ils criaient « Hey, Pogba ! Pogba !» Quand je sors, je vais naviguer pour mon avenir, tourner la page et en écrire une nouvelle. Je ferai n'importe quel travail pour mettre dessous de côté, même ramasser de la merde. Mais honnêtement, moi, ma vie, c'est le football. Mon copain Flash, à Marseille, il m'avait dégoté un rendez-vous avec le président d'un club d'Aix-en-Provence pour signer un contrat. Mais ce n'était pas écrit. Même lui, Flash, le pauvre, il avait signé avec un club en Belgique. Il touchait 2000 euros par mois, sans compter les primes de match. Tu te rends compte?
Ouais.
2000 euros par mois. Qu'est-ce qui te les donne? Il aurait dû en Belgique, il aurait dû rester en Belgique, mais il a fait l'erreur de revenir à Marseille. Et là, la misère. Il a volé, sa femme l'a dénoncé et il s'est retrouvé en prison. Il y a quelques jours, j'ai appris qu'il avait pris un coup de couteau et qu'il était à l'hôpital. Je ne sais pas s'il est mort ou vivant. En tout cas, moi, il ne faut plus que je fasse d'erreur. Car si tu fais le bien, tu trouves le bien.
Comme des amants. Mon grand-père et ma grand-mère s'aimaient d'un amour fou. Ma grand-mère disait qu'ils étaient comme des frères, comme des amants. En tant que militaire, mon grand-père était appelé sur différentes bases un peu partout en France. Au début, ma grand-mère le suivait et puis ils ont acheté une maison à La Calade, à Marseille. Ma grand-mère restait à Marseille, s'occupait des enfants. Mon grand-père allait au combat, revenait. Et parfois, ma grand-mère montait en Algérie, achetait des matériaux de construction pour la maison. Ils s'aimaient très fort. Mon père me l'a toujours dit. J'aurais aimé que ta mère et moi, on s'aime comme mes parents parce que j'ai jamais vu des gens s'aimer comme ça. Mon grand-père parlait arabe, turc. Il parlait plusieurs langues. Avec ma grand-mère, ils rigolaient, ils éclataient de rire. Ma grand-mère savait qu'il avait commis l'adultère pendant ses voyages en Allemagne et ils en rigolaient. Ils n'étaient jamais anéantis par les problèmes. C'est ça que j'admirais chez eux. C'est très rare. Mon grand-père, c'était une force de la nature. Il ressemblait à Elvis Presley, avec des grands yeux et un torse immense. Il mesurait 1m87. Et j'ai jamais vu quelqu'un avec un torse comme ça. À ce qu'il paraît, certains de mes oncles étaient comme ça aussi quand ils étaient jeunes. Des forces de la nature. Des types qui soulevaient des voitures et tout. Et personne ne comprenait d'où ça sortait, cette force. Eh bien, ça venait de mon grand-père, tout simplement. Mes grands-parents ont toujours su faire la différence entre leur amour et les bêtises que faisaient leurs enfants. Et même si certains de leurs enfants étaient tordus, ça ne les a jamais brisés. Un jour, mon grand-père est décédé. À partir de là, ma grand-mère ne faisait que parler de lui. J'allais la voir, elle me disait d'aller lui acheter des cigarettes, des vogues, au bar tabac. Et je restais à fumer avec elle. J'avais 27 ans, je prenais le goûter avec elle. Elle était très, très, très bavarde. C'était une bonnoise, très franche, parfois très directe, très crue. Par exemple, elle pouvait me faire des reproches, me dire mais pourquoi tu ne m'as pas emmenée à l'hôpital voir ton grand-père ? Maintenant, il ne me reste que les os. Il va falloir que j'aille au cimetière demander qu'on enlève le corps de mon frère pour pouvoir me mettre, moi, à sa place. Elle était inconsolable quand mon grand-père est parti. Elle avait des problèmes de veines bouchées, des petits soucis de santé, mais c'est pas de ça qu'elle est morte. Elle est morte de tristesse, c'est évident. Ma grand-mère, je l'aimerai toute ma vie.
Mon grand-père en rêve. La nuit dernière, j'ai vu mon grand-père en rêve. Il était debout face à moi, près du portail de chez mon père, la chemise ouverte, comme il aimait avoir, avec des motifs baroques, noir et blanc. La chemise qu'il préférait. Je l'ai serré dans mes bras, j'ai même senti son odeur. J'ai rêvé de lui après avoir parlé de lui la dernière fois. C'est drôle, non ? Elle était belle, sa chemise. Mon grand-père aimait beaucoup sa chemise en soie. Mais la soie, chez nous, c'est péché. Mais celle-là, elle était très belle. Et mon grand-père n'était pas très pieux. Il ne se disait pas musulman. Pourtant, je sais qu'il était croyant.
Le sac de ma grand-mère. Un jour, c'était peut-être un an après la mort de mon grand-père, mes oncles ont récupéré le sac de ma grand-mère. Elle commençait à perdre la tête et un de ses fils en profitait pour lui demander tout le temps des chèques. Mon père n'était pas d'accord, plusieurs de ses frères et sœurs non plus. C'était très tendu entre eux. Alors un jour, un de mes oncles a enlevé son sac à ma grand-mère pour qu'elle ne puisse plus se faire avoir. On était dans la cour, je me rappelle, j'étais avec elle, à lui épiler les cils, à lui mettre du col. Et une tante me disait « Mais laisse-la, elle est fatiguée. » « Mais non. » Je répondais « Non, je la rends belle et ça lui fait plaisir, regarde. » Ma grand-mère ne parlait déjà presque plus, elle était là, elle regardait le ciel. Et elle me répétait à l'oreille « Ils m'ont pris mon sac, tu te rends compte ? Ils m'ont pris mon sac, ça y est. » « Et oui, mémé, je lui répondais, je sais. » Pour elle, c'était fini. Ils avaient osé lui faire ça. Elle n'avait plus de dignité. Elle n'était plus une femme.
Comme si j'avais vécu là-bas. Moi, je crois aux gènes. Je crois à la force des ancêtres, de ceux qui sont partis, même s'ils ne sont plus là. Je crois qu'ils sont là, avec nous, en nous. On a leurs gènes. Il ne faut pas qu'on les oublie. Parce que quand on sait d'où on vient, on sait qui on est. Ça, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Avant, je ne cherchais pas trop à comprendre. Quand mes sœurs me disaient...
Oh non, nous, on n'a pas le temps d'aller voir mémé.
Bah, je leur répondais... moi, j'ai le temps. J'ai le temps d'aller voir mémé. Moi, j'y vais. C'est trop important pour moi. C'était ma grand-mère. Elle me racontait des histoires sur Skikda, sur Djigel, sur l'Algérie, sur la longueur des plages, l'ambiance, comment les endroits, ils étaient beaux. Tout ce qu'elle m'a raconté, mes sœurs ne l'ont jamais su. Moi, j'ai tout écouté. C'est comme si j'avais vécu en Algérie. Quand les gens me disent...
Oui, mais toi, t'es jamais allé en Algérie, tu es né en France.
Je leur réponds... en tout cas, moi, j'ai envie de finir ma vie là-bas. J'ai envie de retrouver mes racines. Parce que l'Algérie, c'est un pays magnifique. À travers ce que m'a dit ma grand-mère, je me suis retrouvé moi-même. Et ça, mes sœurs ne l'ont jamais compris. Le travail, les occupations personnelles, tout ça, il faut le dire, ça nous rend un peu égoïstes. Chanaise, des Baumettes à Marseille.
La boîte. J'étais pharmacienne, j'avais une équipe, on avait nos clients. Il y avait un couple qui venait souvent, on savait qu'ils étaient illégitimes. Elle s'appelait Madame P. Et l'homme avec elle, on voyait bien qu'il portait un autre nom. Et puis un jour, Madame P vient me voir.
Est-ce que je pourrais vous parler? J'ai quelque chose à vous dire.
Je m'approche, elle m'explique que voilà, que son mari est en train de mourir, qu'il est très malade, qu'elle est embêtée. Et puis quelques semaines plus tard, je la vois qui arrive seule, sans l'homme qui venait d'habitude avec elle. Je la vois, qui parle à l'équipe. Et puis elle s'approche et elle me demande de venir avec elle, dehors.
J'ai quelque chose d'important à vous dire.
Je me laisse entraîner sur le trottoir, jusque devant sa voiture. Là, elle me parle.
Vous savez, vous êtes comme ma famille.
Je réponds oui, oui. Il y a longtemps qu'on se connaît. Je demande qu'est-ce que je peux faire pour vous. Alors elle ouvre son coffre et elle me montre une boîte. Elle me dit...
J'ai Jean-Jean dedans.
Jean-Jean, son mari. Je comprends ce qu'elle veut, que je lui garde Jean-Jean. Au début, je résiste. Écoutez, je sais que vous êtes bouleversée, mais enfin, quand même. Et puis, je finis par lui prendre l'urne. Je l'enveloppe avec du papier et je vais la mettre tout au fond, mais vraiment très au fond de la boutique. Dans l'ordinateur, je note simplement à côté de son nom, Jean-Jean. Et puis, j'y pense plus. Jusqu'au jour où une de mes employées qui faisait du rangement vient me voir effarée. On a un cadavre dans la pharmacie. Je lui explique et je lui raconte l'histoire de Madame P, qui d'ailleurs n'est plus jamais revenue depuis qu'elle m'a laissé l'urne.
Mais on n'a qu'à la mettre dans la poubelle,
me dit Paulette. Je refuse.
Mais il faut qu'on s'en débarrasse, on ne peut pas garder un cadavre.
Alors, je temporise. Écoutez, on va le garder un an, comme aux objets trouvés. Et puis, si Madame P ne vient toujours pas, on avisera. Paulette accepte et se contente d'ajouter une ligne dans l'ordinateur au nom de Madame P.
Faut qu'elle vienne retrouver son Jean-Jean.
Et puis voilà. Un jour, Madame P entre, qui revient comme une fleur. Vous savez quel jour ? Le jour de la Saint-Valentin, je vous jure. Et c'est justement Paulette qui la sert. Elle lui parle de tout et de rien, comme si de rien n'était. Et à la fin, avant qu'elle ne reparte...
Mais, au fait, Madame P, on a un cadeau pour vous. C'est la Saint-Valentin.
Et elle va chercher la boîte. Et hop. Et elle lui met au fond du sac. Et Madame P, elle n'est jamais revenue. Yvonne des Baumettes.
On est 35. On peut en faire une petite dernière. Est-ce qu'on en fait une dernière? Oui, on peut continuer.
Vas-y.
Ouais, celle-là. Celle-là. Est... Pardon, excuse-moi. Eh bien, je propose qu'on fasse l'avant et l'après.
Je ne l'ai pas. Je l'ai pas. À côté de toi. Ok.
Alors, tu sais ce qu'on pourrait faire? Allez, on y va. On va se le dire à deux. L'avant et l'après. Avant, je n'aimais pas lire. Je n'aimais pas écrire. Je n'aimais pas l'école. Je n'aimais pas grand-chose. La prison, elle m'a changé. J'ai davantage envie d'apprendre. Je lis davantage. Je m'intéresse à des choses auxquelles je ne m'étais pas intéressé avant. Avant, je n'étais pas capable de lire un livre. Je ne lisais que Closer. Bon, Closer, je le lis toujours. Hein, mais maintenant, je lis plein d'autres choses. Je m'investis plus.
La prison, ce n'est pas que l'école de la délinquance, hein, comme beaucoup de personnes le disent. Si on s'en donne les moyens, on peut reprendre le dessus. Si on a envie de s'enfoncer dans le trou, je pense que le système carcéral peut s'en occuper, de te mettre bien, bien, bien au fond. Hein, il faut dire les choses. Si on n'a pas de force de caractère ici, on sombre. On sombre très vite. Pour moi, la réinsertion, c'est nous. C'est nous qui nous donnons les moyens. Personne ne nous aide. Ils nous maternent beaucoup, ils nous mettent dans des boîtes. Puis après, il y a des personnes qui progressent, d'autres qui régressent, d'autres qui stagnent. Moi, je pense sortir du lot. Je dis ça sans prétention, parce que j'ai décidé de m'en donner les moyens. Si je m'étais écoutée, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. J'étais aigrie, j'étais pas bien. On va pas dire mauvaise, hein, mais déjà qu'on entre ici avec un problème dans la tête, alors en plus, forcément, le fait de se retrouver enfermé avec des gens qui nous ouvrent la porte, qui nous ferment la porte, qui nous amènent à la douche, qui nous disent à droite, à gauche, on n'a pas forcément envie de supporter ça.
Alors, on s'aigrit, on devient agressif. La moindre phrase de travers, qui aujourd'hui me semble futile, avant, je la prenais mal. Je n'avais pas le recul. Je me suis dit, si c'est pas moi qui m'en sors, ben personne ne m'aidera à en sortir. Pour moi, tout le monde était pareil. Je ne faisais pas la différence. Il m'a bien fallu 3 ans pour comprendre que si je ne changeais pas, j'allais faire une détention catastrophique. Et c'est quand moi, je me suis dit, maintenant, il faut que tu changes. Que tout s'est mis à changer autour de moi. Les agents, le regard des autres. Mais personne ne m'a aidé. Hein. Je m'en suis donné les moyens toute seule. J'entends souvent dire, en détention, il y a aussi la réinsertion, etc., etc. Mais c'est faux. Il n'y a pas de réinsertion. Si on ne décide pas de venir aux activités, si on ne parle pas entre nous pour se dire, t'as vu, il y a ça, ça a l'air bien, ben, personne ne viendra à nous. Personne ne viendra nous dire, hey,
les filles, il faut vous motiver. Hein.
Ben ouais. Les propositions d'activités sont affichées, point. Et à chacune de se débrouiller. Si j'ai changé, c'est grâce à moi. Et à moi seulement.
Le déclic, ça a été d'être transférée. J'ai passé 18 mois au Baumettes et puis j'ai été transférée en disciplinaire comme une personne dangereuse, incontrôlable. Alors que c'était faux. Je pense que c'était plus mon caractère grande gueule, le fait que je ne mâche pas mes mots, qui ne leur plaisait pas. Ça ne plaît pas en détention, quelqu'un qui dit ce qu'il pense, même avec respect. Bon, tout de suite, ça paraît hautain, agressif. Donc ils m'ont très vite cataloguée, on va dire. Sauf que dans une maison d'arrêt plus petite, à Nice, je me suis retrouvée avec des agents différents, des gens qui me disaient « Mais pourquoi tu ne vas pas à l'école? Pourquoi tu n'essayes pas telle ou telle chose ?» Et j'ai vu que dans les maisons d'arrêt plus petites, les gens avaient plus le temps de s'arrêter sur toi. Au Baumettes, on discutait de magazines, de séries, de télé, de conneries, quoi. Là, c'était plus petit et ils voyaient que j'avais été transférée en disciplinaire. Pour eux, j'étais un peu challenge. Et ils se sont rendus compte que je n'étais pas un challenge. Il fallait juste qu'on me motive. Et c'est là-bas que je me suis dit, mais c'est vrai, je passe mon temps à ne rien faire. Je ne lis pas, je ne m'instruis pas.
Je me suis dit que je n'allais pas... Je me suis dit que je n'allais pas refaire comme au Baumettes. Rester toute la journée à dormir, faire du sport et dormir. Je n'avais même pas le brevet. Alors j'ai passé un diplôme de remise à niveau, le CFJ, je l'ai eu. On m'a dit de tenter le brevet, ben pour moi c'était impossible le brevet, je me suis inscrite et je l'ai eu avec mention, ça m'a donné confiance. J'étais loin de ma famille, seule à Nice, et en 10 mois, j'ai passé 2 diplômes. J'étais fier. Je me suis dit, si je retourne au Baumettes, je leur montrerai que j'ai changé. J'ai continué l'école, j'ai eu le CAP, je me suis mis à travailler, alors qu'avant je ne voulais pas, je trouvais qu'on n'avait pas à travailler en prison. Maintenant, je trouve ça valorisant. J'aime le métier que je fais ici, monteuse en bijoux.
À mon retour ici, ils ont vu que j'avais changé. Certains ont pris le temps et ils ont vu là-bas. Même si j'avais eu des moments durs, finalement, j'avais relevé la tête, repris confiance en moi, confiance aussi en la détention. J'étais moins froide, j'étais moins fermée. Je savais que les agents n'étaient pas tous pareils, que certains m'avaient aidée. À Nice, il y en avait qui venaient jusqu'à mon lit pour me réveiller, me dire « Allez, debout, à l'école !» Quand on nous pousse vers le meilleur, ça motive. Tu es là, au fond de ton lit, à regarder les feux de l'amour et quelqu'un qui n'est pas obligé prend sur lui de venir te secouer. Bon, sur le moment, j'ai été fâchée, mais ça m'a fait rebondir. En quelques mois, ça a tout changé. Nas, des Baumettes.
Merci beaucoup.